Internet.
Depuis 2002, la mairie de Paris met gratuitement à la disposition des étudiants parisiens un espace de 1000 m² et des services pour leur permettre de développer leurs projets.
Salle de réunion et de répétition, formation, exposition, centre de documentation, accès à Internet, domiciliation du siège social de votre association, boîte aux lettres.
La Maison des Initiatives étudiantes est le point d'appui de vos initiatives. La Maison des Initiatives étudiantes, c'est au 50 rue des Tournelles, dans le 3e arrondissement, métro Bastille ou Chemin Vert. Conditions d'inscription, horaires et informations complémentaires sont sur le www.mie.paris.fr.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus Paris, retrouvez Haut et un bon, l'émission des gens qui chantent en français. Au programme, des invités, du commentaire de texte, des sessions live et bien sûr beaucoup de musique. Chanteurs, musiciens, historiens, journalistes, organisateurs de festivals, tous ceux qui ont l'amour de la chanson sont les bienvenus dans cette émission. Haut et un bon, c'est tous les premiers mercredis de chaque mois, en direct, entre 21h et 22h30, sur Radio Campus Paris.
93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Il est 20h01 sur Radio Campus Paris et la bouquinerie ouvre ses portes tout de suite.
Tant qu'il y a des pages,
des mots,
des mots.
Ou pas.
Et puis tant que ça se lit, hein.
Même si ça se lit en diagonale, à la verticale, à tout en bas,
la tête en bas.
Yahoo. Et si ça se lit aux toilettes aussi.
Ouais, aussi.
Ben, c'est la bouquinerie. Un mardi sur deux.
Nous sommes le mardi 13 janvier 2015 et c'est la toute première bouquinerie de l'année. Mercredi dernier, le pays entier était sous le choc des horreurs perpétrées dans les locaux de Charlie Hebdo. S'en sont suivies prises d'otages, fusillades et inquiétudes. Un grand, grand, grand bout du monde était juste sidéré. Dimanche, partout dans le pays, et nous ici à Paris, nous marchions. Crayon à la main, boule au ventre et chaud au cœur. À la bouquinerie, on se voyait pas trop commencer l'année comme d'habitude. Mais on voulait pas trop en faire non plus. Être ou ne pas être Charlie, telle n'est franchement pas la question. Nous, on parle de bouquins. On parle de pages, de mots ou pas. Quoi qu'il en soit, on parle d'expression. Ces derniers jours, on entend parler de liberté d'expression à toutes les sauces et c'est tant mieux. Mais nous, on parle de bouquins. Et la liberté d'expression, c'est la condition d'existence des bouquins. C'est celle aussi de cette émission. Et c'est celle de nos sociétés modernes, entre autres. Alors quoi ? Bah, on se donne un gros coup de pied aux fesses et on regarde loin devant. Les événements de la semaine dernière sont pour nous l'occasion de l'ouvrir encore plus grand que d'habitude et de revenir à notre façon sur cette liberté. Nous avons choisi nos armes. Au programme de ce soir, des lectures autour du thème des grandes gueules. Habituellement, un bénévolant vient nous parler d'un texte. Cette semaine, c'est plusieurs bénévoles de la radio qui se sont réunis autour de textes de leur choix, autour d'auteurs qui, de tout temps et à leur manière, ont voulu rappeler qu'ils n'étaient pas prêts de la boucler. Camus, Desproges, Rushdie aussi, et quelques autres seront au rendez-vous. Nous sommes donc très très nombreux dans le studio de Campus ce soir. Salut tout le monde !
Salut !
Bonsoir !
Voilà, tout ce petit monde, dis donc. Et à 20h40, nous recevrons Salima Drieder, auteure de La pluie d'or, parue aux éditions Nuit d'encre. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
C'est un livre CD illustré et un conte rap inspiré par et aussi pour les habitants du quartier de la Goutte d'Or.
C'est ça.
À tout de suite.
À tout de suite.
Bouquiner.
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 Bouquineuse.
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 Bouquinarien.
Bouquinerment.
Bouquinerment.
Bouquinant.
Bouquinant.
Bouquin.
Bouquiste.
Nous commençons notre atelier lecture méta-grande gueulesque. C'est les grandes gueules de la radio qui lisent les grandes gueules de l'histoire. Et c'est Flore qui ouvre le bal. Salut Flore.
Bonsoir.
Flore, t'es une bénévolante assidue décidément à la bouquinerie.
Eh oui.
T'es déjà venue nous parler de Roald Dahl, de McLuhan. Et ce soir, tu as choisi un extrait de L'Arabia de Paolo Pasolini.
Exactement, qui était à la fois un film et un texte.
Tu peux nous lire ça, je t'en prie.
Que s'est-il passé dans le monde après la guerre et l'après-guerre ? La normalité. La normalité, parlons-en. Dans l'état de normalité, on ne regarde pas autour de soi. Tout autour se présente comme normal, privé de l'excitation et de l'émotion des années d'urgence. L'homme tend à s'endormir dans sa propre normalité. Il oublie de se penser, il perd l'habitude de se juger, il ne sait plus se demander qui il est. C'est alors qu'il faut créer, artificiellement, l'état d'urgence. Ce sont les poètes qui s'en chargent. Les poètes, ces éternels indignés, ces champions de la rage intellectuelle, de la furia philosophique. Des événements ont marqué la fin de l'après-guerre, disons pour l'Italie, la mort de De Gasperi. La rage commence là, avec ses funérailles grandes, grises. Et la rage du poète envers cette normalisation qui est une consécration de la puissance et du conformisme ne peut que croître encore. Qu'est-ce qui rend le poète mécontent ? Qu'est-ce qui rend le poète mécontent ? Le racisme. Le racisme comme cancer moral de l'homme moderne et qui, justement, comme le cancer, a une infinité de formes. C'est la haine qui naît du conformisme, du culte de l'institution, de la violence arrogante de la majorité. C'est la haine pour tout ce qui est différent, pour tout ce qui n'entre pas dans la norme et qui donc trouble l'ordre bourgeois. Malheur à qui est différent. Voilà le cri, la formule, le slogan du monde moderne. Donc, haine des nègres, des jaunes, des hommes de couleur, haine contre les juifs, haine des fils rebelles, haine des poètes. La crise se résout encore une fois dans le monde, les nouveaux morts sont pleurés et honorés, et on recommence, toujours plus total et profond, l'illusion de la paix et de la normalité. La culture occupe de nouveaux terrains, un nouveau souffle d'énergie créatrice dans les lettres, le cinéma, la peinture, un énorme service rendu aux grands détenteurs du capital. Car le poète servile s'annihile, vidant de problèmes de sens et réduisant tout à la forme.
Merci beaucoup, Flore.
Mais merci à toi de m'avoir permis de lire ce texte.
Ce texte, donc un extrait de La Rabbia de Pier Paolo Pasolini, avec tous ses prénoms.
C'est ça.
Et c'est un texte très très fort, particulièrement percutant. Est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur le pourquoi de ce texte, de ce choix ?
Pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? D'abord parce que Pasolini, c'est un réalisateur qui a été assassiné pour ce qu'il disait et pour ce qu'il montrait. Il a été accusé d'avoir insulté la religion d'État. Il était beaucoup trop à gauche pour beaucoup trop de gens. Et il a été assassiné donc sur cette plage d'Ostie, roué de coups, parce qu'il disait un peu trop fort ce qu'il pensait, et donc c'était, je pense, particulièrement de circonstances. Et aussi parce que dans ce texte, comme dans tous ses films et dans tous ses poèmes, il revendique une liberté d'expression, et surtout il revendique une particularité de l'art face aux médias. L'art a quelque chose à dire que les médias ne disent pas, que la télévision ne dit pas, et l'art, la littérature, le cinéma, la poésie sont là pour une rage et pour une colère et pour une passion que les médias ne font pas. Et il faut savoir qu'il était marxiste, anticonformiste et très 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 anticapitaliste. Et il a écrit un texte qui s'appelle Contre la télévision, qui est dans le même ton, même sur notre teneur.
Qui nous appelle peut-être à réfléchir aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure hors antenne, lors d'événements ultra médiatisés, au rôle que doit tenir la télévision.
C'est ça, justement, en fait, ce texte ne parle pas tellement de la liberté d'expression en tant que telle, mais plutôt de comment on peut parler d'événements comme ceux qu'on a connus récemment. Donc le texte que j'ai lu ne parle pas vraiment de c'est quoi la liberté d'expression, mais comment est-ce qu'on peut parler des choses. Et je trouve que les récents événements comme le 11 septembre montrent bien qu'il ne faut pas avoir toujours une logorée, ressortir les mêmes choses en boucle et avoir une forme de curiosité malsaine et pernicieuse, comme on l'a vu surtout sur certaines chaînes gratuites de la TNT, dont je tairai le nom, qui ont un discours, une absence de discours en fait. Et justement, l'art, lui, a un discours, et c'est pour ça qu'il faut lire et écouter et regarder.
Paolo Pasolini, donc la première grande gueule qu'on a ouverte ce soir.
C'est ça.
Merci beaucoup, Flore. Et c'est maintenant Lucie qui va prendre la parole. Coucou, Lucie.
Coucou.
Toi aussi, tu es également déjà venue dans la bouquinerie. Tu nous avais fait découvrir à tous Haroun et la mère des histoires de Salman Rushdie. Et tu reviens ce soir armée de ce même bouquin, ta figure de proue, et je vais te laisser en lire un extrait.
Et si le génie de l'eau parla à Haroun de l'océan des courants d'histoire ? Et même s'il se sentait rempli d'un sentiment d'échec et de désespoir, la magie de l'océan commença à avoir un effet sur Haroun. Il regarda dans l'eau et vit qu'elle était composée de mille et mille et mille et un courants différents, chacun d'une couleur particulière, et qu'ils s'entrelaçaient les uns aux autres comme une tapisserie liquide d'une complexité époustouflante. Et s'y expliqua qu'il s'agissait des courants d'histoire, que chaque fil de couleur représentait et contenait un conte unique. Différentes parties de l'océan contenaient différentes sortes d'histoires, et comme on pouvait trouver là toutes les histoires qui avaient déjà été racontées, et bien d'autres, et qu'on était encore en train d'inventer, l'océan des courants d'histoire était en fait la plus grande bibliothèque de l'univers. Et parce que les histoires étaient conservées ici, sous forme liquide, elles gardaient la possibilité de changer, de devenir de nouvelles versions d'elles-mêmes, de se joindre à d'autres histoires pour devenir encore une nouvelle histoire. Aussi, contrairement à une bibliothèque de livres, l'océan des courants d'histoire ressemblait plus à une réserve de récits. Il n'était pas mort, mais vivant. Et si tu es très très prudent ou très très habile, tu peux plonger une tasse dans l'océan, dit Sia à Haroun. Comme ça. Et il sortit une petite tasse d'or d'une autre poche de son gilet. Et tu peux la remplir de l'eau venant d'un courant unique et pur d'histoire, comme ça. Et c'est ce qu'il fait exactement. Et tu peux l'offrir à un jeune garçon qui a le cafard, afin que la magie de l'histoire lui remonte le moral. Vas-y, cul sec, bois un bon coup. Fais-toi plaisir, conclut Sia. Rien de tel pour se sentir en pleine forme. Sans dire un mot, Haroun prit la tasse et but.
Et c'est la bouquinerie.
C'était Haroun, donc, et la mère des histoires de Salman Rushdie, à l'instant, lu par Lucie. Merci beaucoup, Lucie, pour cet extrait.
Avec plaisir.
Plein d'émotions.
Oui. C'est un peu pour ça, je pense, que je l'avais choisi. Ce côté un peu rassurant, très beau, très lyrique, qui vient du coup de ce livre qui a été écrit juste après la fatwa qui a été écrite sur Salman Rushdie, qui a été forcé de s'exiler après avoir écrit et publié les versets sataniques.
Donc on peut rappeler que sa tête est aujourd'hui mise à prix et qu'il est vraiment dans un vrai cauchemar. À cause de ses problèmes.
Clandestinité, tout ça. Et du coup, c'est un livre qu'il écrit, un conte pour son fils, qui est, comme on peut le voir ici, assez doux, très poétique et assez pédagogique aussi, mais qui a un côté vraiment clair sur la... Sa position est claire sur la liberté d'expression. Il exprime à quel point l'imagination et la force créative qu'elle contient est importante. Et c'est un peu ce que j'ai voulu dire en choisissant cet extrait, que malgré tout ce qu'il a vécu, malgré sa condition de nos jours, c'est en fait la poésie qui reprend le dessus, la beauté et ce message qu'il veut transmettre, l'importance de la multiplicité des avis et du fait de pouvoir l'entendre, les communiquer, les goûter du coup.
Et puis voir les histoires qu'on raconte sous la forme d'un océan, ça laisse l'espoir qu'il y en aura toujours, que ça s'arrêtera jamais.
Que ça nous entoure, que c'est capital et que ça fait partie de nous, cet élément liquide, vivant en fait. Voilà, c'est la vie avant tout, c'est l'amour avant tout, c'est la force de la créativité et sa puissance aussi, qui nous a tous rassemblés ces derniers jours, ou la plupart, pour justement clamer haut et fort à quel point ça compte et c'est important pour nous.
Donc Haroun et la mère des histoires, merci beaucoup Lucie d'être venue avec ta jolie voix et ton joli texte. Et on écoute tout de suite un morceau qui va un petit peu changer le ton. C'est notre chroniqueur Yacine qui a voulu nous le mettre dans les oreilles.
L'assassin fait adieu au métier.
À l'heure du crime, il faut se lever.
Et pour tuer prestement,
par la lame qui saigne à blanc.
Il étudie l'anatomie.
Il sait pas où s'en va la vie.
Et qu'on peut pas saigner la vieille.
En lui tranchant le gros orteil.
L'assassin doit se cultiver.
Lire des revues spécialisées.
Apprendre le geste du sommeur.
Du sommeur qui sème la peur.
Et que planter dans la poitrine.
Le couteau ne prend pas racine.
Mais qu'un couteau planté dans le dos.
Devient un joli porte-manteau. Y'a assassin et assassin.
Y'a la démoche, y'a la déviant.
Se faire assassiner, c'est rien.
si on tombe pas sur un sagouin.
Assassin et assassin.
Y'a là des moches, y'a là des biens.
On trouvera un bon assassin.
Voir les pages rouges et les bottins. La chair humaine, c'est pas du lard.
Le dépeçage est tout un art.
L'assassin, véritable artiste.
Avec un doigt et deux pianistes.
Ne découpe pas, monsieur Dupont.
Comment découpe le cochon.
Pour obtenir de beaux jambons.
Pour suivre le contour du caleçon. Y'a assassin et assassin.
Y'a là les moches, y'a là les biens.
Se faire assassiner, c'est rien.
Si on tombe pas sur un sagon.
Y'a assassin et assassin.
Y'a là les moches, y'a là les biens.
Pour trouver un bon assassin.
Par les pages rouges, j'ai des bottins. L'assassin est un gastronome.
Il sait apprécier le jus d'homme.
Chevalier du tasse-son.
Il goûte dans une coupe en argent.
Le sang d'adulte est goulayant.
Il a de la robe, le sang de l'enfant.
Rien pour son bon sang de bon sang.
Quelle serait triste la vie sans sang. Y'a assassin et assassin.
Y'a la démoche, y'a la débien.
Se faire assassiner, c'est rien.
Si on tombe pas sur un sagouin.
Y'a assassin et assassin.
Y'a la démoche, y'a la débien.
Pour trouver un bon assassin, voir les pages rouges du bottin. Y'a assassin et assassin.
Voir les pages rouges du bottin.
Se faire assassiner, c'est rien.
Par les pages rouges du bottin.
Y'a assassin et assassin.
Par les pages rouges du bottin.
Pour trouver un bon assassin. Voir les pages rouges du bottin. La 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 la
la la la la. À l'instant, Los Carayos et le professeur Choron avec le titre « Les pages rouges du bottin ». Le professeur Choron, c'était un grand ami de Cavana.
Oui, ils ont créé ensemble Harakiri, Charlie Hebdo, voilà. Effectivement. Donc, ouais, c'est une figure ultra importante de cette presse. Ouais, c'est un des pères tutélaires de tous ces gens-là, en fait. Ouais.
Et nous passer un morceau aussi cynique, c'est peut-être ta façon à toi de faire un hommage, quelque chose.
Déjà, passer une chanson pour moi, c'était, comment dire, j'oublie pas que les gens qui sont morts, c'est un journal de dessin. Et je trouve qu'une chanson, c'est pas mal parce que c'est un texte, en même temps c'est de la musique, un peu comme un dessin, c'est un petit peu du texte et du dessin, il y a une sorte de mélange comme ça qui est un petit peu équivalent. Donc ça m'étonne pas que bon, Choron ait fait de la musique, bon, lui il n'était pas du tout dessinateur, hein. Donc faire des chansons pour lui, c'était aussi une manière d'exprimer son humour d'une autre manière, un peu en se différenciant, en étant un petit peu différent des autres, je vais y arriver.
Et ouais. Alors, ce morceau-là en particulier.
Ce morceau-là, c'est simple. Hein. Bon, on a tous beaucoup traîné sur les réseaux sociaux cet an dernier. Donc, il a été posté par quelqu'un. Et donc, je me suis dit, je le connaissais en fait, et je l'avais un peu oublié. Et je me suis dit, c'est pas mal pour illustrer l'actualité. C'est vraiment le contrepoint idéal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. J'avais envie de ramener une chanson. Et puis, Choron, c'est un peu celui que je préfère dans toute cette bande. Alors lui, il est mort en 2005, donc il n'a pas vu tout ça, heureusement. Mais voilà, quoi. C'était pour lui rendre hommage. Et pour moi, c'était aussi... parce que dans le côté grande gueule, il était parfait, quoi. Il était parfait.
Oui, c'est sûr. Donc c'est Los Carayos. J'aime bien le dire avec l'accent. Et le professeur Choron, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, il y a d'autres chansons.
Je peux préciser que Los Carayos, c'était un peu le regroupement de certains musiciens qu'on a connus après. Oui. Manu Chao, François Agilazzaro. C'était vraiment l'époque des débuts du rock alternatif en France, où les gens se mélangeaient.
C'est très rock alternatif, ce morceau.
Voilà, donc ils se mélangeaient un peu entre eux. Puis après, ils ont créé les groupes connus, hein, La Mano Negra et Pigalle et compagnie, quoi.
Merci beaucoup Yacine de nous avoir partagé ce drôle de morceau. Il est presque 20h20, vous écoutez toujours La Bouquinerie, le thème de ce soir c'est les grandes gueules et les lectures continuent. Dans quelques instants on va entendre Camus, des proches et encore d'autres nous toucher quelques mots à travers la voix des bénévoles présents ce soir. Salut Maxime.
Salut.
Alors toi, tu vas nous lire un texte choisi par Edia, qui est malheureusement malade ce soir. On lui fait des bisous depuis notre studio jusqu'au fin fond de son lit. Et Edia avait choisi un texte de Camus. C'est son discours de Suède prononcé à l'hôtel de ville de Stockholm en 1957. Camus, pour qui les quatre commandements du journaliste libre sont lucidité, refus, ironie et obstination. C'est donc un auteur assez à propos. Tu vas nous en livrer une interprétation particulière, Maxime ?
Oui, en effet, puisque c'est Elia qui aurait dû le lire normalement. Comme je la remplace au pied levé, je vais tenter de m'effacer le mieux possible.
Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent, ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois, du moins, qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retenir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation, mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où il règne, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
Bouquinerie.
Bouquiner.
Bouquiner.
Bouquinal.
Bouquiner.
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 Bouquineuse.
Bouquinarial.
Bouquineuse.
Bouquinarial.
Bouquinarial. Bouquinermont.
Bouquinermont. Bouquinquant.
Bouquin.
Bouquise.
Bouquin.
Bouquinquant.
C'est la bouquinerie.
À l'instant, donc, une interprétation du discours de Camus par Maxime. Donc, comme Edia a une angine, on s'est dit que la liberté d'expression résistera à l'angine et que Camus s'exprimera. Non pas que Camus ait une angine, mais Edia en a une. Et du coup, Maxime parle pour Edia qui parle pour Camus. Bref, c'est un discours clair et limpide, contrairement à ce que je viens de dire, qu'on pourrait... se permettre de ne rien rajouter si vous avez réussi à vous concentrer sur le fond plus que sur la forme. Mais peut-être que certains d'entre vous ont un mot à rajouter.
Bah, comme quoi l'interprétation, rien que la voix peut changer le sens du texte.
Oui. Bah, tu nous as fait rire sur un texte qui ne l'est pas. C'est peut-être aussi la satire, faire des trucs drôles à partir de trucs qui ne le sont pas. Merci beaucoup Maxime.
De rien.
Toi, tu as peut-être un ressenti sur cette interprétation que tu voudrais partager.
Merci. J'ai pas mal à la gorge. Ah. Je pensais que j'aurais mal à la gorge, mais en fait, non. Et je remercie Edia pour son choix.
Il a tenu sur la distance, c'est ce qui était très, très
oui.
fort.
Oui, oui. Non, c'était une véritable performance. On peut rire.